La science CQFD, Natacha Triou.
Pour ce vendredi grand portrait, on rencontre une figure phare de l'anthropologie et de la préhistoire, Jean-Loïc Lequellec, est notre invité. Comment comprendre ce que l'on appelle l'art des cavernes, l'art pariétal, que l'on trouve dans les grottes préhistoriques, alors que ce terme n'est probablement pas adapté. Depuis leur découverte, l'enjeu des archéologues est de trouver la signification de ces images. Jean-Loïc Lequellec dédie sa vie à ce travail d'enquête scientifique. Faire le lien entre la mythologie et l'art préhistorique, les images et les paroles, ou la possibilité de reconstruire un lointain passé. Avec lui, voyageons en Afrique et aux confins de la mémoire humaine. Jean-Loïc Lequellec, d'après une préhistoire vraie. Jean-Loïc Lequellec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue et préhistorien, directeur de recherche émérite à l'Institut des mondes africains au CNRS, spécialiste de l'art rupestre et des mythologies. Vous êtes l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, dont La caverne originelle, paru en septembre dernier aux éditions La Découverte. Merci. Merci à vous d'être là avec nous en direct des studios de France Culture. Et merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, sur notre fil @sciencecqfd, où nous vous postons tout au long de cette heure les liens, les sources qui ont nourri cette discussion. Alors jusqu'à 17h, nous parlerons donc d'anthropologie, d'archéologie, de l'originalité de votre approche, Jean-Loïc Lequellec, mais aussi de pseudo-archéologie. Et pour commencer, parlons de votre parcours, de vos origines à vous. C'est pas un parcours académique classique. Comment ça a commencé, cette passion pour la préhistoire? Ça remonte à loin?
Pour la préhistoire, ça remonte à loin parce que je me suis toujours intéressé aux cailloux. Depuis tout petit, j'ai collectionné les fossiles. Comme la plupart des enfants qui sont naturalistes dans l'âme, qui collectionnent les insectes, qui ramassent des coquillages. Bon, et je fais partie de ceux qui ont continué. Il y en a beaucoup qui arrêtent. Moi, j'ai continué. C'est sur le tard ensuite que je me suis intéressé à l'art préhistorique, et c'est tout à fait par hasard ça. C'est, je dirais presque que ça n'a rien à voir, c'est que je me suis retrouvé en Libye pour éviter de faire mon service militaire, donc j'ai fait la coopération, et je me suis retrouvé en Libye, c'est l'administration militaire qui m'a nommé en Libye. À ce moment-là, je savais même pas où ça se trouvait, donc j'ai regardé sur un atlas, j'ai vu où c'était, je me suis dit, oh là là, bon, et est-ce que je vais vraiment aller là? Et puis je me suis dit, c'est soit ça, soit une caserne du côté de Bourges, donc c'est plutôt la Libye, en fait, dans un premier temps, puis on verra bien. Alors, je suis allé en Libye. Et en Libye, j'ai découvert un monde qui m'était complètement inconnu, bien entendu. Et donc, j'ai appris l'arabe. Je me suis intéressé à tout ce qu'on pouvait trouver d'intéressant. L'architecture, évidemment. Voilà, la culture du pays et compagnie. Et puis, par hasard, j'ai accompagné des gens qui allaient visiter, mais en touriste, quoi, un site d'art rupestre pas très loin de Tripoli. Et j'ai trouvé ça incroyable, j'ai fait des photos de touristes. Hein. Et puis plus tard, moi-même, j'ai visité d'autres sites dont je pensais qu'ils étaient connus, que c'était vraiment quelque chose de très bien documenté. Et j'avais pas du tout dans l'esprit, moi, d'étudier ce genre de choses. J'ai fait des photos de touristes, quoi, parce que je trouvais ça joli, avec quand même une interrogation de fond qui reste présente, qui est de dire, c'est quand même curieux que ces images qui ont été réalisées il y a des milliers d'années, par des gens manifestement complètement différents de moi, d'une autre culture, d'une autre famille linguistique, des gens qui, peut-être si je les rencontrais aujourd'hui, je m'entendrais pas du tout avec eux et on se fâcherait très vite. Bon, et malgré tout, ils ont laissé des œuvres qui me touchent. Donc il y a quelque chose d'un peu étonnant dans ce contact avec l'art préhistorique qui est toujours resté, qui a fait que je m'y suis plus intéressé.
Et dans cette rencontre, justement, avec cet art préhistorique, qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y a sous vos yeux, cet art rupestre en Libye?
Alors le premier grand site que j'ai visité, c'est un site qui s'appelle Matrendouche, qui est dans l'extrême sud-ouest de la Libye. C'est vraiment à 1000 km de Tripoli au sud-ouest. C'est en plein désert. Bon. Et il faut vraiment y aller exprès. Il fait chaud, c'est difficile, il faut marcher. Bon. Et là, au milieu de nulle part, sur des rochers en plein air, donc c'est un art préhistorique qui, là, n'est pas en grotte. Souvent, nous, avec la célébrité de Lascaux, la grotte Chauvet, maintenant, on a tendance à penser que l'art préhistorique, c'est dans des grottes. Bon. C'est pas vrai. Dans l'immense majorité des cas, dans le monde entier, c'est en plein air. Et justement, là, c'était en plein air. Et donc, il faut imaginer qu'on marche dans un endroit désertique où il y a des anciennes vallées qu'on appelle des wadis, c'est des vallées sèches, puisqu'évidemment, il y a eu la désertification. Et là, sur les parois, il y a des œuvres qui peuvent être toutes petites, des petits personnages de 10 cm de haut, mais il peut aussi y avoir des œuvres monumentales. Et notamment, quand il s'agit des animaux, par exemple, il y a des endroits où on peut voir des éléphants qui sont plus grands que nature et qui sont dessinés de manière extrêmement... naturalistes, véristes, disons, qui sont vraiment criants de vérité. Et ça, c'est une rencontre qui est tout à fait stupéfiante. Quand on ne connaît pas, c'est extraordinaire. En dehors de toute, disons, de toute préoccupation, de recherche, c'est un choc artistique, disons. Voilà, une rencontre étonnante, d'autant plus en ce lieu. Et c'est à partir de cette rencontre par hasard, quand je suis rentré en France, j'ai vécu en Libye pendant plusieurs années. Et à un moment donné, quand je suis rentré en France, j'ai montré des photos à l'un des très rares spécialistes officiels, disons, qui connaissait ce domaine en France, qui s'appelait Paul Huard. Et je lui ai montré des photos, voilà, en me disant que ça peut peut-être l'intéresser. Bon. Et à ma grande surprise, il m'a dit que parmi mes photos, il y avait des choses absolument inconnues, et qu'il fallait absolument continuer, qu'il fallait documenter ça, que c'était très intéressant. Alors bon, ben je me...
Une réelle découverte.
Voilà, j'ai continué, donc j'ai fait comme il a dit. et j'ai systématiquement exploré toute une région pour trouver des sites nouveaux, des sites qui n'avaient pas été documentés, et pour les documenter le plus précisément possible.
Mais alors, pour faire un tout petit retour en arrière, parce que là on parle du point de départ en Libye où tout commence, hein, ces années-là c'est 76-1980, sur vos toutes jeunes années, pour préparer cette émission, vous nous avez confié, enfin vous êtes né le 9 octobre 1951 en région parisienne, et vous nous avez confié que lorsque vous étiez au lycée déjà, vous publiez des articles sur la préhistoire.
Oui, parce que bon, comme je disais que je ramassais des cailloux, mais parmi les cailloux que je ramassais, il y avait des fossiles, mais il y avait aussi des outils préhistoriques, et au lycée, j'avais un camarade un petit peu plus âgé que moi qui faisait la même chose et on s'est initié à la préhistoire en lisant des articles parce que c'était en Vendée, dans un endroit, disons, où il n'y avait pas grand monde autour pour parler de ce genre de choses. Et je sais pas, ça devait être en première, je pense, j'ai publié mon premier article de préhistoire sur une série de pointes de flèches que j'avais trouvées dans une vigne pas très loin de chez moi, voilà. Et donc, depuis, j'ai continué à publier des choses quand je pensais que ça méritait d'être publiable.
Voilà. Oui, ça commence très tôt, tout ça. Dans votre parcours aussi, de petit, vous découvrez le poids-de-vent. Pourquoi c'est quelque chose d'important dans votre parcours, justement?
Alors, c'est un peu la même démarche, c'est-à-dire que j'ai tendance à m'intéresser à ce qu'il y a autour de moi, et donc petit, je suis donc arrivé avec mes parents en Vendée. Donc la Vendée, c'est le Bas Poitou, c'est voilà une région du Poitou, et je me suis aperçu très vite que les anciens du village autour de moi utilisaient de temps en temps des mots très bizarres. Voilà. Que mes parents connaissaient pas. Mes parents sont pas originaires du Poitou. Et donc, c'est étonnant. Et je me suis aperçu qu'en fait, c'était des éléments d'une langue qui est le Poitevin, qui est une langue d'Oyle. Et qu'il y avait parmi les personnes âgées, il y avait des gens qui parlaient dans cette langue, qui racontaient des histoires dans cette langue, qui chantaient des chansons dans cette langue. Et j'ai commencé à m'y intéresser d'un peu plus près, à enregistrer des personnes âgées qui racontaient des contes, chantaient des chansons, etc. Puis à ce moment-là, j'étais musicien et donc je jouais du violon et j'ai été voir aussi parmi ces personnes âgées, il y avait beaucoup de gens qui jouaient du violon que j'ai enregistré pour acquérir du répertoire et aussi du répertoire de contes puisqu'ils racontaient des contes traditionnels. C'est souvent les mêmes qui font ce genre d'animation. Et ces contes traditionnels, j'ai appris la langue, j'ai appris les contes qui vont avec, les chansons, etc. Et c'était présenté comme quelque chose de typiquement local, de vraiment strictement du coin, etc. Et je me suis aperçu, en fait, après 2-3 ans, qu'on trouvait les mêmes choses dans d'autres régions de France. En essayant de me renseigner aussi, parce que je me suis aperçu qu'il y a des gens qui ont étudié ça. Moi, je ne le savais pas à ce moment-là. Il y a une bibliographie là-dessus, il y a le manuel de Folklore Contemporain de Van Gennep qui fait 12 volumes, qui ne parle que de ça pour toute la France. Bon, il y a une énorme bibliographie. Et je me suis aperçu qu'en fait, c'était quelque chose qui était présent dans beaucoup de régions de France et que des histoires, des récits que les gens présentaient comme strictement locales, associés à tel menhir, à telle église, à tel château, dans un département d'à côté, on allait raconter la même histoire en disant que ça s'était associé à tel autre menhir, tel autre château, en disant mais c'est ici que ça s'est passé. Et donc, il y a quelque chose d'un peu bizarre, c'est que la même histoire est racontée à des endroits différents, par des gens qui précisent toujours que l'histoire est vraie et qu'elle est strictement locale. Donc, ça pose évidemment un problème qui très vite devient général, parce que quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que ces histoires se racontent dans toute l'Europe, et que si on sort d'Europe, on les trouve aussi ailleurs, et qu'il y a donc des histoires, des contes ou des mythes, c'est pour ça que je commençais à m'intéresser à la mythologie, qui sont racontés pratiquement à l'identique dans des endroits extrêmement différents du monde, par des gens qui ne se connaissent pas, évidemment, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas la même culture, et qui pourtant racontent des histoires tout à fait comparables. Alors, évidemment, ça pose beaucoup de questions et c'était le début de mon intérêt pour la mythologie comparée.
Et c'est ça, le Poitevin, c'est la porte d'entrée vers la mythologie comparée. Mais
c'est ça.
On va y revenir, mais du coup, en quoi ça consiste plus précisément la mythologie comparée, Jean-Luc Lequelec?
Comparer des récits différents et pourtant semblables. C'est-à-dire que vous avez en des endroits du monde différents ou à des époques différentes, tous les deux, des gens qui racontent ou qui ont raconté des histoires qui peuvent être très longues et qui peuvent exposer, par exemple, ça peut être un récit qui va vous raconter pourquoi nous mourons. Pourquoi les humains sont mortels? Alors on vous explique, à l'origine, personne n'était mortel, les gens étaient immortels, ça allait très bien. Ou bien, oui, on était mortel, mais ça durait que 2 ou 3 jours, c'était pas grave, comme une espèce de mauvaise grippe, on s'en remettait très bien, et voilà. Mais il s'est passé quelque chose, donc un événement unique. Que raconte le mythe? Et depuis, nous sommes mortels, nous mourrons, nous devons travailler à la sueur de notre front, etc., etc. On connaît ce genre de récit dans notre culture. Mais ce genre de récit est présent dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures, on a des récits qui justifient l'état présent du monde et qui donnent un sens à l'état présent du monde. Qui répondent aux grandes questions du type pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, quoi. Pourquoi il y a la terre? Pourquoi il y a des humains dessus? Pourquoi il y a des animaux? Pourquoi il y a des plantes? Pourquoi ils sont comme ci? Pourquoi ils sont comme ça? Et il y a des spécialistes qui comparent ces récits, qui les étudient, qui les classent et qui essayent d'en tirer quelque chose et qui ont observé, par exemple, qu'il y a, si on fait un espèce de zoom, un grand zoom sur ces récits, il y a d'abord des récits qu'on dit cosmogoniques, qui expliquent l'origine du monde, l'origine du cosmos. Bon. Le cosmos étant là, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir des récits anthropogoniques qui vous expliquent l'origine de l'humanité. L'humanité, il y aurait très bien pu ne jamais y avoir d'humains. Il y en a. Comment se fait-il? Il y a une histoire, un mythe qui explique comment ça s'est passé. Maintenant, il y a des humains qui sont là, ils pourraient parler tous la même langue, ils pourraient être égaux, il pourrait y avoir que des hommes ou que des femmes, ou ils pourraient être bisexuels, bisexués ou quoi. Non, il se trouve qu'il y a une différence des sexes, qu'il y a des différences sociales, qu'il y a des riches et il y a des pauvres. Et donc, vous avez des mythes ethnogoniques qui vous expliquent pourquoi il y a des peuples différents, des langues différentes. Vous avez des mythes sociogoniques qui vous explique pourquoi il y a des puissants et des misérables, etc., etc., jusqu'aux mythes étiologiques, qui sont les mythes qui vous expliquent les tout petits détails du monde, les tout petits détails des choses. Pourquoi tel animal a une grosse queue, et puis le lapin, il a une toute petite queue, par exemple. Pourquoi tel arbre a des feuilles qui sont dentelées, et tel autre a des feuilles qui sont lisses. Donc vous avez des milliers de récits qui donnent en tout cas une justification à l'état présent du monde. Et comparer ces récits pour essayer de découvrir leur âge, de voir d'où ils viennent, de voir s'ils sont localisés, certains d'entre eux sont propres à une culture, s'il y en a qui sont universels. Ça, c'est le travail de la mythologie comparée. Faire l'histoire de ces récits, en fait, et la préhistoire de ces récits.
Et on va voir que cette mythologie comparée, elle est vraiment au cœur de votre approche. On va poursuivre le récit de votre parcours, Jean-Luc Lequelec. Vous apprenez donc le Poitevin, l'arabe. En 92, vous êtes diplômé de l'école pratique des hautes études et docteur en anthropologie, ethnologie et préhistoire. Votre thèse, le symbolisme de l'art rupestre ancien du Sahara central. Mais ce qu'il faut dire dans ce parcours qui n'est pas classique, c'est que vous êtes longtemps indépendant.
Oui, je suis pas passé, j'ai pas fait un parcours universitaire du tout. Pour des raisons familiales, disons, voilà, c'était pas dans la tradition familiale, disons, voilà. Et donc, je me suis débrouillé tout seul, donc j'ai fait des tas de boulots différents, et en gardant toujours l'idée de faire des recherches sur la préhistoire et quelques autres choses, disons, voilà, et m'intéresser à beaucoup de domaines a priori sans rapport entre eux, mais qui finalement convergent et qui m'ont permis peut-être d'avoir un regard un peu plus personnel sur justement l'art des grottes. Parce que je me suis intéressé à la linguistique, voilà, je ne suis pas devenu linguiste, mais je me suis quand même pas mal intéressé à la linguistique, je me suis intéressé à la mythologie, je me suis intéressé à plusieurs domaines différents, à la préhistoire bien sûr, et à plusieurs domaines différents comme ça, sans jamais vraiment devenir un spécialiste d'aucun de ces domaines, sauf pour un qui est l'art rupestre du Sahara. Bon, voilà. Donc je suis vraiment spécialiste. Le reste, je suis, disons, un mythologue du dimanche, un linguiste du dimanche, voilà. Mais ça a un avantage, je pense, c'est que j'ai pas reçu une formation linéaire, donc pas de déformation non plus, disons. Et ça me permet d'avoir acquis assez d'éléments dans chaque domaine pour comprendre, pour voir de quoi les spécialistes, eux, parlent, en étant bien plus compétent que moi, et pour essayer de trouver s'il n'y a pas des relations. Et ce qui m'a intéressé notamment, c'est que les images préhistoriques, bon, qui sont étudiées par beaucoup de préhistoriens, qui sont extrêmement compétents, moi, ce qui m'a plus intéressé, c'est de me dire, bon, ces images, quand même, elles sont certainement en rapport, justement, avec quelque chose qui est de l'ordre de la mythologie. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'en savoir plus? Et de toute façon, elles sont manifestement en rapport avec quelque chose qui est de l'ordre de la mythologie, qui est la mythologie contemporaine, puisque actuellement, les gens parlent de l'art préhistorique, et que la mythologie, c'est des discours, c'est des mythes. Les mythes sont des discours. Donc forcément, il y a un rapport, depuis toujours et jusqu'à maintenant. Donc, je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser plus particulièrement au rapport entre les images et les discours.
Votre manière d'aborder la préhistoire, on y vient encore plus précisément. Restez à l'écoute.
France Culture. La science CQFD, Natacha Triot.
16h16 sur France Culture, nous avons la joie de nous entretenir avec Jean-Loïc Lequellec, anthropologue et préhistorien. Nous venons de parler de vos débuts, de votre passion pour l'anthropologie, cette science de l'humanité. Cette passion, on la retrouve dans votre dernier ouvrage, La Caverne originelle, un ouvrage un peu impressionnant, comme ça, à première vue, avec ses 900 pages, mais il est très accessible, très agréable à lire. Et dans cet ouvrage, vous détricotez un certain nombre d'idées fausses, Jean-Loïc Lequellec, à commencer par le mythe de l'homme des cavernes.
Oui, alors, dès les premières découvertes, et dès qu'on a reconnu, à partir de 1902, qu'il y avait des images dans certaines cavernes qui étaient vraiment préhistoriques, s'est posé la question de dire, mais comment se fait-il? Enfin, quelle idée, finalement, d'aller dans des grottes obscures? C'est pas évident quand même, parfois dangereuse, pour aller faire des images, des peintures, des gravures, des sculptures, alors que c'est quand même beaucoup plus facile de faire ça à l'extérieur. Et de fait, il y en a qui ont été faites à l'extérieur. Ça n'empêche pas la question de dire, mais alors justement, si c'est si facile de le faire à l'extérieur, pourquoi s'embêter à aller faire ça dans des cavernes?
Oui, déjà, les hommes de la préhistoire ne sont pas des hommes de cavernes, ils ne vivent pas au fond de ces cavernes.
Voilà, une des réponses qui a été donnée pratiquement tout de suite, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'art pour l'art, qui, on peut résumer ça très simplement en disant c'est juste pour faire joli. Et la réponse, c'est de dire ben, nous-mêmes, nous, nos intérieurs, nous les décorons avec des sous-verts, des cadres, des portraits de famille, voilà, des peintures de paysages, pour rendre notre intérieur plus agréable, pour agrémenter notre maison. Voilà, c'est mieux de vivre dans un cadre agréable. Et les hommes des cavernes, enfin ceux qu'on appelait les hommes des cavernes à ce moment-là, ils ont fait pareil, simplement. Voilà, ils ont décoré leur intérieur eux aussi pour que ce soit plus agréable et plus joli, plus sympa. Et évidemment, on s'est aperçu assez rapidement quand même, enfin ça a pris du temps, mais quand même on s'est aperçu très rapidement que ce qu'on appelait les hommes des cavernes n'avaient jamais vécu dans des cavernes. C'est vraiment, il y a quelques cas où des gens ont un peu vécu dans des cavernes, mais très généralement pas, parce que vivre dans une caverne, c'est vraiment infernal. Enfin, c'est une très drôle d'idée. Il faut s'éclairer, il faut pas s'asphyxier non plus. Alors, au porche, vivre sous les porches, à l'entrée des cavernes, oui, ça, c'est bien, parce qu'on s'abrite de la pluie, on voit le paysage, on est protégé, on peut allumer un feu, on est très bien sous un porche à l'entrée d'une caverne. Mais rentrer et vivre à 200 mètres dans le fond, ou des fois plusieurs kilomètres de l'entrée, ça, personne n'a jamais fait ça, parce que c'est vraiment une très drôle d'idée. Et donc, et puis c'est impossible, tout simplement. Et donc, cette idée de l'art pour l'art, de l'art, disons, de délectation, où ces images auraient été faites simplement pour faire joli, pour qu'ensuite on imagine ensuite les familles qui viennent visiter la caverne pour aller regarder les œuvres, pas le dimanche parce que ça n'existait pas encore, mais voilà, les loisirs à regarder les œuvres. Bon, ça c'est une théorie qui a été, là je la présente de manière un peu souriante, mais qui a été soutenue très sérieusement par des gens très 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 sérieux. Hein. Et évidemment, maintenant, cette théorie, plus personne ne la soutient, plus personne prétend que l'art s'explique par simplement le désir de faire des belles images pour décorer un endroit. Donc la question reste. C'est-à-dire, bon, si ça, ça va pas, si c'est pas une bonne réponse, quelle serait donc la bonne réponse ?
Et à qui ou à quoi étaient-elles alors destinées ces dessins ?
Voilà. Donc pourquoi faire des images dans des grottes ? Et justement pour qui ? Pourquoi et pour qui ? Est-ce que c'est vraiment pour quelqu'un ? C'est une vraie question parce que il y a certaines de ces images qui sont. Alors il y en a, évidemment, on a tous en tête Lascaux, qui a été extrêmement médiatisé. On a, bah, pratiquement tout le monde a au moins vu dans sa vie une image de peinture de Lascaux. Et là, c'est un endroit où les peintures sont très grandes, elles sont très belles, elles correspondent en tout cas à nos canons esthétiques. C'est pour ça aussi qu'elles ont été bien médiatisées. Il y a des choses qui correspondent beaucoup moins à nos canons esthétiques qui sont pas médiatisées. Il y a notamment parmi les gravures. Bon. Et on a ça en tête. Bon. Et elles sont très visibles. Elles sont très grandes, très visibles, faciles à voir. Mais il y a pléthore d'images qui sont toutes petites, qui sont camouflées dans des raccoins, il faut s'enfoncer, il faut se mettre à quatre pattes, il faut s'allonger par terre parfois, on a du mal à les voir, on peut pas les voir à deux personnes, il y en a plusieurs où il faut s'allonger, on a juste un espèce de petit alvéole comme ça où on rentre et puis on est tout seul, on regarde une image. Bon. Donc ça conforte l'idée que c'est pas de l'art décoratif, donc, et on se demande bien pour qui justement réaliser une image où personne n'aura l'idée d'aller la trouver pour la contempler. Donc on peut se dire, au moins pour une partie, ces images n'ont pas été faites pour être contemplées par des humains. En tout cas, elles ont été faites pour une autre raison. Et il y a même un cas célèbre d'une image, il y en a même plusieurs, qui n'ont jamais été vues en entier par les personnes qui les ont réalisées. Parce que elles sont, par exemple, faites au plafond d'une grotte où les peintres étaient allongés sur le dos et dessinaient juste, ils avaient la place de tendre un petit peu le bras et ils ont dessiné des animaux très très grands qu'ils ne pouvaient pas voir en entier et qui pourtant sont très bien proportionnés, ce qui montre qu'ils avaient un entraînement et qu'ils étaient très bons dessinateurs. Mais reste la question, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, les artistes, n'ont pas vu certaines des œuvres qu'ils ont réalisées telles que nous pouvons les voir maintenant. Donc la question là, elle est c'est impressionnant. On se dit mais alors quelle idée de faire d'aller dans des endroits où c'est très difficile de peindre et de faire des choses que nous on trouve très belles, mais c'est visiblement pas ça le propos puisque avant nous, disons, avant les techniques qu'on utilise maintenant pour les documenter, pratiquement personne n'a été les regarder.
On parle d'art pariétal, mais même le mot art, vous parlez d'un de ces dessins sur les cavernes, il y a un gros débat sur le fait d'utiliser ce terme, et vous l'utilisez en mettant des nuances, Jean-Louis Kelec.
Oui, alors je l'utilise parce qu'il faut bien utiliser un terme, et sinon, alors évidemment, si on veut faire le malin, disons, et être hyper prudent, on peut dire graphisme. Alors, c'est des graphismes, bon d'accord. Alors oui, évidemment que c'est des graphismes, mais j'emploie le mot art parce qu'en fait le mot art, étymologiquement, c'est simplement, c'est le même mot que artefact, c'est des produits de l'activité humaine. L'art, c'est un produit de l'activité humaine, étymologiquement. Donc le terme a pris un sens, il est chargé de connotations esthétiques. Nous, l'art, c'est quelque chose qu'on contemple pour les graphismes, justement. On va dans les musées et on y va uniquement pour contempler les œuvres et les commenter et les admirer. Voilà. Et évidemment, si on utilise le mot art, le risque, c'est de tirer avec ce mot cette façon de voir les œuvres. Ce qu'il faut éviter de faire, évidemment, parce qu'on n'a aucune idée, dès le départ, des raisons pour lesquelles ces œuvres ont été réalisées. Moi, j'utilise quand même le terme parce que c'est des artefacts, comme les archéologues. Disons, les archéologues parlent d'artefacts. C'est-à-dire une pointe de flèche, c'est un artefact. Une poterie, c'est un artefact. C'est des choses qui sont pas naturelles, qui sont faites de main d'homme. Tout ce qui est fait de main d'homme, c'est des artefacts. Et donc, on peut les étudier avec les techniques de l'archéologie. Et l'art, ce que nous appelons art, avec le sens moderne du terme, n'échappe pas à ça. C'est un produit de l'activité humaine que nous pouvons étudier avec les techniques de l'archéologie. Et donc, c'est ce qu'il faut faire dans un premier temps. On a là des productions humaines, essayons de les étudier comme font les archéologues, lorsqu'ils décident d'étudier des pointes de flèches ou des n'importe quel autre type d'artefact, des décors de poterie, n'importe quoi d'autre, des lames d'épée, etc. On peut faire la même chose avec l'art en étudiant, en classant, en essayant d'identifier des styles, des filiations, de construire des chronologies. C'est la première chose à faire pour essayer d'y voir un petit peu clair. Sinon, on met dans un énorme tas des choses qui peut-être sont très différentes.
Et cette façon de voir ces artefacts, hein, la grande difficulté, c'est justement l'interprétation. C'est-à-dire que d'après ce qu'on va interpréter, c'est pas forcément ce qui est représenté. Par exemple, si on croit voir un mammouth sur une peinture, rien ne nous affirme que c'est vraiment ça qui est représenté, Jean-Luc Lequelec.
Alors, l'étude, disons, du point de vue archéologique, c'est très très bien. Évidemment que c'est absolument nécessaire, il faut le faire. Il faut faire des analyses. Les analyses permettent d'identifier les pigments. On peut trouver la provenance des pigments. On peut faire des tas de choses qui sont super intéressantes. On peut dater certaines des images, trop peu pour le moment, mais enfin, on peut quand même avoir des dates. Donc tout ça nous aide beaucoup pour comprendre. Mais il y a une question qui reste quand même, disons, hermétique à toutes ces approches, qui est la question du sens. Ça ne nous dit pas pourquoi ces images ont été réalisées. Hein. Imaginons qu'on aille dans un musée, un de nos musées, hein, et qu'on prenne un tableau célèbre, je ne sais pas moi, un tableau de Gauguin, et qu'on procède comme les archéologues, on peut analyser les pigments, on peut mesurer le tableau, on peut faire des photos, on peut faire des photos infrarouges pour voir s'il n'y a pas d'autres choses derrière, on peut identifier la provenance des pigments, on peut le dater, le tableau, etc. On peut dater peut-être la toile, etc. Voir où est-ce qu'elle a été fabriquée. Des tas de choses qui sont très intéressantes, qui nous aident à une certaine compréhension de l'œuvre. Mais si on fait ça, par exemple, avec un tableau célèbre, genre, je sais pas moi, le radeau de la Méduse, une fois qu'on aura fait ça, on n'aura rien compris au radeau de la Méduse. Et dans le cas de l'art préhistorique, on est exactement dans ce cas-là. C'est-à-dire, on fait des tas de travaux que je ne critique pas, bien entendu, qui sont tout à fait indispensables, qui sont de plus en plus pointus, de plus en plus... Il y a une très haute technicité maintenant, mais qui, en gros, ne nous apprennent absolument rien sur le sens et la raison d'être des œuvres. Alors, il faut faire autrement.
Alors sur cette question de la difficulté de l'interprétation, je vous propose un extrait de votre livre « La caverne originelle ». Certains ensembles pariétaux ont été considérés comme des représentations de scènes de chasse, réelles ou mythiques. À la Baume-la-Tronne, un lion en train de rugir, de 3 mètres de long et environné de mammouths. Et Marc Azéma a supposé qu'il s'agirait là d'une façon de traduire plusieurs moments d'une attaque de ce prédateur contre les pachydermes, à l'image d'un tableau multiscénique du Moyen-Âge. Cette lecture n'est pas contraignante. Le lion, si c'en est bien un, pourrait tout aussi bien être montré en train de bâiller, car pour affirmer qu'il rugirait, il nous manque la bande sonore. Et l'hypothèse d'un tableau multiscénique n'est en rien démontrée. Elle pourrait tout aussi bien être soutenue, sans davantage de preuves, pour n'importe quel ensemble montrant plusieurs fois la même espèce animale. C'est du reste l'une des objections majeures qui peuvent être apportées à la thèse de Marc Azéma sur l'art paléolithique comme origine du cinéma. Il est pratiquement impossible de démontrer qu'un ensemble d'images avait une visée narrative et un autre non, quand on ignore tout de leur signification et que les intentions de l'artiste restent à jamais inconnaissables. Une réaction à cet extrait, Jean-Louis Lequelec.
Alors, il y a un risque quand on se lance dans l'interprétation, c'est la raison pour laquelle beaucoup de préhistoriens se gardent d'interpréter, c'est qu'on risque d'être victime de ses propres prénotions. C'est-à-dire, on a l'impression de comprendre tout de suite, parce que c'est des images, donc ça passe pas par les paroles, on regarde et on a l'impression de comprendre ce qu'on voit. Et ça peut être très trompeur. Et pour le réaliser, il suffit de s'imaginer aller dans une église, par exemple, sans rien connaître, sans même savoir qu'il y a quelque chose qui s'appelle le christianisme ou qu'il y a quelque chose qui s'appelle la Bible, l'Ancien Testament, tout ça, en ignorant tout ça. Bon. Et on rentre dans une église, voilà, comme un parfait étranger, et on regarde ce qu'il y a. Et donc, il y a des représentations humaines et animales. Alors, si on regarde les représentations animales, par exemple, on va voir un agneau par-ci, par-là, il y en a plusieurs fois, voilà. On va voir un oiseau que si on connaît la faune locale, on va dire, tiens, c'est une colombe, voilà. On peut voir un taureau, on peut voir un aigle, on peut voir un lion. lion, on peut voir des tas d'animaux représentés dans les églises. Et on peut se dire, ah, comment se fait-il qu'ils ont représenté ces animaux-là? Alors, il y a déjà une première, disons, approche qui fonctionne, conclusion qui fonctionne aussi pour l'art pariétal, c'est de dire, ils n'ont pas représenté la faune, ils ont représenté certains animaux, et c'est ce qu'on appelle un bestiaire. Bon, alors là, pour comprendre, il faut connaître le bestiaire chrétien. Si on ignore tout du bestiaire chrétien, on regarde, on se dit, ben, c'est une colombe, alors bon, peut-être ils chassaient les colombes, ou c'est peut-être un mets délicat, enfin voilà, et puis les agneaux, ça devait être des éleveurs, sans doute. Bon, le lion, évidemment, c'est un prédateur de l'agneau, donc sans doute qu'il représentait le lion pour essayer de, par magie imitative, peut-être, magie synergétique, protéger leur troupeau. On peut imaginer des tas de choses comme ça. Et évidemment, on passe à côté d'une chose essentielle, c'est que la colombe, c'est une colombe, mais c'est pas une colombe. Voilà, c'est le Saint-Esprit. Et l'agneau, c'est un agneau, mais c'est pas un agneau. Et le lion, c'est un lion, mais c'est pas un lion. Le taureau, c'est un taureau, mais c'est pas un taureau. L'aigle, c'est pas un aigle, c'est un aigle, mais c'est pas un aigle, parce que tout ça, c'est des animaux qui sont une représentation du tétramorphe, c'est-à-dire les quatre évangélistes. Et si on ignore tout de la culture chrétienne, on passe complètement à côté de l'essentiel et on raconte strictement n'importe quoi. Non, on se trompe complètement. Et il faut bien réaliser que nous sommes dans cette situation quand nous visitons une caverne ornée. Nous voyons là un mammouth, ici plus loin un bison, là un lion. Et bien sûr que c'est un mammouth, on reconnaît que c'est un mammouth, on sait quand même reconnaître un mammouth. Non, bon, alors on le reconnaît, mais peut-être que c'est pas un mammouth. On reconnaît un lion, d'accord, mais peut-être que c'est pas un lion. Et ça, on n'en sait strictement rien.
Et vous avez utilisé un terme important, celui de bestiaire, parce que donc, la plupart des peintures sont des cygnes, l'autre moitié des peintures sont animales et humaines, sont essentiellement des bovidés, des équidés, mais il n'y a pas d'oiseaux, alors que c'est pratiquement c'est les animaux qu'on voit le plus souvent hein, quand on sort, il n'y a pas de représentation de la flore, tout ça en effet, comme vous dites, c'est une partie de la réalité.
Oui, alors les animaux, alors on a qualifié l'art des cavernes d'art animalier, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'animaux, il n'y a pas que des animaux, puisqu'il y a justement la moitié en gros des images, c'est ce qu'on appelle des signes, c'est-à-dire des choses qu'on ne sait pas reconnaître, tout simplement. Il y a quelques humains, ou disons anthropomorphes, des êtres qui ressemblent à des humains, un peu bizarroïdes parfois, mais et après c'est pratiquement tout. Bon. Et parmi les animaux, une réaction spontanée en regardant les animaux, c'est de dire, bah, ils ont représenté, c'était des chasseurs, donc évidemment que pour eux, la faune, c'était super important, le gibier, tout ça. Et ils ont représenté leur environnement, les animaux importants dans leur environnement. Et non, parce que, exactement, il y a très peu d'oiseaux. Il y en a des oiseaux, hein, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment une poignée sur les milliers et les milliers d'images qu'on connaît. C'est vraiment très très peu, alors que, et c'est un paradoxe, parce que lorsqu'on sort se promener quelque part, généralement, le premier animal qu'on voit, c'est un oiseau. C'est les oiseaux qu'on voit le plus souvent. N'importe où qu'on aille, même ici à Paris, si je sors, je risque fort, assez rapidement, de voir un oiseau. Et les oiseaux, ils sont quasiment absents. Les serpents, il y en a quelques-uns aussi, mais ça se compte peut-être sur les doigts d'une main, c'est rarissime. Et les insectes, c'est pareil. Beaucoup d'animaux sont complètement absents. Et donc, ils sautent aux yeux, finalement, que évidemment s'il y a quelque chose à voir avec la faune, puisque ce sont des animaux. Mais c'est une ponction qui est opérée dans la faune. C'est quelques animaux qui ont été choisis, et pour des raisons qu'on ignore, bon, qu'on peut essayer d'intuiter, mais pour le moment, on l'ignore. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour, et ce qui se passe pour toutes les sociétés, nous faisons de même. C'est-à-dire que la faune, c'est gigantesque. Le nombre d'espèces animales, n'importe où qu'on vive, c'est des dizaines de milliers d'espèces, c'est de petits insectes et d'animaux. On ne peut pas mémoriser tout ça, on ne peut pas en tenir compte. Donc, toutes les cultures sélectionnent dans le monde animal et dans le monde végétal aussi, quelques éléments, très peu, et là-dessus, et les valorisent positivement, négativement. Il y a des animaux qu'on trouve gentils et d'autres qu'on trouve méchants. Voilà, on les valorise. Et sur cette valorisation de certains animaux, c'est ça qu'on appelle un bestiaire, les cultures s'instituent, se construisent. Voilà. Et donc les mythologies aussi se construisent là-dessus. Et manifestement, c'est ce qui s'est passé aussi pour les sociétés au sein desquelles les cavernes ont été ornées. Ça ne fait pas exception, c'est-à-dire toutes les sociétés qu'on connaît fonctionnent de cette façon-là, instituent leur imaginaire sur une ponction, une partie de la faune qu'on appelle le bestiaire.
Avant de parler des mythes, pour interpréter ces interprétations, il y a eu aussi l'hypothèse du chamanisme qui a été avancée, très largement médiatisée. Et vous, Jean-Loïc Le Callec, vous avez publié en 2006 « Chamanisme et art préhistorique, vision critique » aux éditions Errance. Et là encore, hein, vous invalidez ces théories fausses.
Oui, alors c'est un livre collectif. Moi, j'ai participé à ce livre, mais l'idée, c'était que cette interprétation par le chamanisme, qui a eu beaucoup de succès à ce moment-là, mais qui est une très vieille interprétation en réalité, c'était pas quelque chose de nouveau du tout. Cette interprétation a été appliquée à des arts extrêmement divers. Alors moi, je m'y suis intéressé parce que ça a été appliqué aux arts rupestres du Sahara, mais en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Mésoamérique, en Sibérie évidemment, en Afrique australe, partout dans le monde, il y a des gens qui se sont mis à interpréter les images en clé chamanique, si je peux dire. Et ça nous a paru à quelques-uns un petit peu abusif, disons. Et on a essayé d'y voir plus près et d'introduire un petit peu de rationalité là-dedans. Et on a montré que c'était abusif dans la mesure où, en plein d'endroits où on a plaqué l'idée d'une interprétation chamanique de l'art, il y avait en réalité jamais eu de chaman, ni quoi que ce soit qu'on puisse appeler chamanisme.
Oui, ou complètement anachronique aussi.
Oui, c'est ça. D'où il y a toujours le risque d'anachronisme, il faut beaucoup s'en méfier. C'est-à-dire que quand on a une idée pour interpréter l'art, c'est une hypothèse à ce moment-là, à ce stade-là, on se dit « Ah, moi j'ai l'impression que... » il y a quelque chose de chamanique, voilà, ou qu'il y a quelque chose de totémique, ou qu'il y a quelque chose, ce que vous voulez, une idée comme ça qui vous vient. C'est une hypothèse, donc très bien, tous les coups sont permis à ce stade de l'hypothèse, on peut très bien dire, moi j'ai l'impression que ça a à voir avec telle chose. Bon. Eh bien, pour aller plus loin que simplement une idée comme ça, pour essayer de faire une démonstration, parce que quand même, sans être trop prétentieux, on essaye un peu de faire de la science quand même, de temps en temps, donc pour essayer de faire ce qui s'appelle une démonstration, il faut aller plus loin que simplement cette simple intuition. Et donc, pour ça, la première chose à faire, à mon sens, c'est de dire, bon, si je veux interpréter l'art et l'expliquer, le justifier par autre chose que lui-même. Donc, on sort de la théorie de l'art pour l'art, où l'art n'existe que pour lui-même. Et on va l'expliquer, mettons, par le chamanisme. Et bien, la première chose à faire, c'est de regarder si, à l'endroit où l'art a été créé, et à l'époque à laquelle il a été créé, il y avait bien quelque chose qu'on peut appeler chamanisme. Si cette démarche préliminaire-là, cette démonstration préliminaire-là n'est pas faite, et bien, on risque deux gros problèmes. Un, l'anachronisme. Donc là, tout le monde connaît le terme d'anachronisme, c'est-à-dire plaquer à une époque quelque chose qui en réalité appartient à une autre époque sans prendre la précaution de vérifier que ça dépasse l'époque à laquelle on l'a identifié. Et l'équivalent, ça c'est dans le temps, mais dans l'espace, il y a l'équivalent de l'anachronisme qui est l'anatopisme, c'est-à-dire de plaquer à un endroit quelque chose qui appartient à un autre endroit. Et par exemple, de plaquer en Afrique australe, expliquer les arts rupestres d'Afrique australe par un type de chamanisme propre à la Sibérie. Ça, c'est un anatopisme, c'est-à-dire on prend quelque chose dans un endroit pour expliquer autre chose de complètement différent, dans un endroit complètement différent, disons que c'est un petit peu risqué.
On en revient à cette question, hein. Pourquoi les humains ont fait ça? Une des intuitions partagées par les scientifiques, les anthropologues et les historiens est celle d'une ou des représentations de mythes. On y vient après cette pause musicale. The Shins, Painting a Hall à 16h39 sur France Culture, car nous parlons d'art pariétal, et plus précisément de l'art pariétal étudié par Jean-Loïc Lequellec. Nous avons le plaisir de nous entretenir tout au long de cette heure avec l'anthropologue et préhistorien directeur de recherche émérite à l'Institut des Mondes Africains au CNRS. Alors nous venons de détricoter un certain nombre d'idées reçues sur cet art pariétal, Jean-Loïc Lequellec. Si l'art des cavernes entretient bien rapport avec une mythologie, il y a un mythe qui vous intéresse en particulier, c'est celui de la caverne originelle, celui de l'émergence primordiale. Que raconte-t-il ? Racontez-nous.
En fait, parmi les gens qui se risquent du côté de l'interprétation, l'idée commune maintenant, c'est de dire bon, ces images avaient sans doute quelque chose à voir avec ce qu'on peut appeler une mythologie. Bon. Il y a des préhistoriens qui parlent simplement d'images symboliques, mais bon, toutes les images sont symboliques, donc ça ne nous avance pas énormément, disons. Et je me suis dit, mais même parler de mythologie, je suis entièrement d'accord avec ceux qui disent et celles qui disent que il y a quelque chose à voir probablement entre ces images et une mythologie, bien sûr que je suis d'accord, mais je suis d'accord parce que c'est un peu un truisme en fait, c'est-à-dire que c'est assez évident que ces images, elles étaient associées à des paroles et donc à des mythes, à des récits. Maintenant, et ce qui serait bien, c'est d'essayer d'aller plus loin. Et une direction qui a été suivie et qui pour moi est un échec, c'est d'essayer de prendre image par image, ou certaines images, disons, ou certains groupes d'images, et d'essayer de retrouver un récit que ces images illustreraient, et de reconstituer un récit dont ces images seraient une illustration. Ce qui présuppose que les images illustrent. Ce qui n'est pas du tout garanti, ce qui n'est pas du tout prouvé. Et en fait, toutes les tentatives dans ce sens ont échoué. Il y a des gens qui ont évoqué, par exemple, pour certaines images d'Auroch, qui ont évoqué le Minotaure, notamment pour Lascaux. Il n'y a rien qui est vraiment convaincant. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait quand même pas essayer d'aller plus loin que de dire, bon, ça a quelque chose à voir avec la mythologie. D'accord, mais aller plus loin, ce serait d'essayer de déterminer, mais quel mythe ? De quoi on parle exactement ? Quand on parle de mythologie, on parle donc de mythe. Donc, de quel mythe préhistorique s'agit-il ? S'il s'agit bien de mythologie. Et là, ça bloque très vite, parce que si je pose la question comme ça à un préhistorien, il va me répondre, mais en fait... c'est pas possible de répondre à cette question parce que les mythes c'est des paroles et que les paroles ne se fossilisent pas et que ben on les retrouvera jamais, c'est fini. En plus, il y a pas d'écriture, on est dans une préhistoire assez lointaine en plus, et donc c'est mort, hein. Moi, jamais on retrouvera les c'est mort au sens propre du terme et fort du terme, quoi. On retrouvera jamais les mythes de la préhistoire, c'est même pas la peine d'essayer. Et il y a plusieurs spécialistes qui disent c'est même pas la peine d'essayer, ça m'intéresse même pas d'essayer. Bon. Et ils ont raison. Jamais on ne retrouvera un mythe de la préhistoire en utilisant les outils des préhistoriens et des archéologues. Mais le problème, c'est que moi, si j'ai ma voiture en panne, je téléphone pas à un menuisier. Les outils des archéologues et des préhistoriens ne sont pas adaptés pour traiter de mythologie. Effectivement, qu'ils se sentent impuissants avec leurs propres outils, ça ne veut pas dire que leurs outils sont mauvais. Ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes ne sont pas très bons. Ça veut simplement dire qu'ils sont excellents, ils font un excellent travail, avec des outils qui fonctionnent très très bien, pour étudier un certain domaine qui n'est pas le domaine de la mythologie. Et donc, si on s'intéresse à la mythologie, et qu'on veut aller plus loin que de dire « Ah, ça doit avoir quelque chose à voir avec des mythes », eh ben, il faut s'intéresser aux spécialistes qui, eux, travaillent plus précisément avec d'autres outils, le monde de la mythologie, et particulièrement le monde de la mythologie comparée. On peut dire que la préhistoire, les préhistoriens utilisent des outils comme une espèce de machine à remonter le temps. Les archéologues en général, du reste, ont inventé une espèce de machine à remonter le temps qui nous permet de reconstruire un passé complètement disparu à part quelques objets. Mais avec ces objets, ils reconstruisent des choses qui sont par ailleurs complètement invisible. C'est une machine à remonter le temps. Les généticiens aussi bricolent avec une machine à remonter le temps qui permettent de reconstruire un passé disparu. Les linguistes, d'eux-mêmes, et les mythologues comparés, d'eux-mêmes, ont construit des outils qui permettent de remonter le temps et de reconstruire des mythes disparus. Alors, c'est quelque chose qui est beaucoup moins médiatisé que la préhistoire ou que l'archéologie. J'ignore pourquoi, mais en tout cas, on connaît beaucoup moins les résultats de ces travaux-là que les résultats des travaux des préhistoriens qui nous parlent dans les médias. C'est assez facile d'avoir des informations sur les premiers humains, sur telle nouvelle découverte, etc. Les nouvelles découvertes en mythologie comparée, on n'en entend pratiquement jamais parler. Bon. Mais ça existe, voilà. Ça existe et ça fonctionne. Alors, ça fonctionne évidemment avec une certaine imprécision. Tout comme en archéologie, on a une imprécision. Les datations, par exemple, sont imprécises, mais imprécis ne veut pas dire faux. Elles sont imprécises, c'est-à-dire qu'il y a une marge d'incertitude. On vous donne une date, puis on vous dit bah, c'est plus ou moins, ça dépend, plus ou moins 500 ans, ou même plus ou moins 1000 ans si c'est une date très ancienne. Mais c'est pas n'importe quand. Voilà, on a à peu près une fourchette, comme on dit, on a à peu près une date. Donc c'est imprécis. Mais c'est imprécis, mais c'est pas faux. De même, la mythologie comparée permet de reconstruire, non pas extrêmement précisément les mythes du passé tels qu'ils étaient racontés à l'époque où ils étaient racontés il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans avant l'écriture, mais permet de les reconstruire avec une approximation suffisante. Voilà. Et donc, sachant ça, connaissant un petit peu ces outils, sachant un peu les utiliser, je me suis dit, voyons voir. Parmi les mythes, y en aurait-il qui seraient abordables avec ces outils-là et qui me permettraient d'éviter le défaut dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'expliquer l'art préhistorique par quelque chose. Alors ici, un mythe, non pas, c'est plus le chamanisme ou le totémisme ou je ne sais quoi d'autre, ce serait par un mythe, en prenant, disons, d'abord la précaution de montrer que ce mythe existait bien. Si c'est un mythe qui est inventé au XVIIIe siècle et que j'essaye d'expliquer l'art préhistorique avec, c'est évidemment complètement idiot et je fais un gros anachronisme. Bon, si je peux démontrer auparavant que le mythe que je vais utiliser, c'est un mythe qui était bien vivant au moment où les cavernes ont été ornées, là, c'est déjà un peu plus confortable, disons, comme démonstration, un peu plus sûr. Et de fait, donc je me suis dit, parmi l'immense bibliothèque des mythes, quels sont ceux qui pourraient coller assez bien, a priori, comme ça, avec cette idée d'aller dans des cavernes pour représenter essentiellement des animaux, parfois, et puis pas des plantes, mais des animaux, ni des paysages, uniquement des animaux, et puis quelques humains qui ont la particularité d'être assez souvent à demi-animaux, on dirait, ou pas complets, un peu bizarres, on dirait qu'ils sont pas finis, pas complètement humains. Est-ce qu'il y a un mythe qui pourrait associer tout ça et qui pourrait aller bien? Et effectivement, celui qui va bien, c'est le mythe de l'émergence primordiale de l'humanité et des animaux. C'est donc un mythe anthropogonique, un mythe qui expose l'origine de l'humanité et qui nous dit qu'à l'origine, humains et animaux vivaient de concert et de façon assez indistincte sous terre, et qu'un jour, ils sont sortis à l'air libre, en passant par une grotte, et ils se sont répandus sur le globe.
Je propose d'ailleurs qu'on vous lise avec un nouvel extrait. Il est impossible de dresser un inventaire mondial exhaustif des mythes de création, même en se limitant à un seul type, celui de l'émergence primordiale des animaux et de l'humanité. La version canonique dit que les premiers hommes, et ou les premiers animaux, vivaient sous la terre, d'où ils sont un jour sortis par un trou, qu'en certains cas, l'on montre encore. Cette sortie du monde souterrain s'opère parfois à travers un végétal creux, bambou, baobab, ou en grimpant à un tronc, une liane ou une corde. De nombreuses variantes font sortir hommes et animaux d'une caverne, d'une montagne, d'un cratère ou d'un rocher particulier, parfois d'une termitière, plus rarement d'une fourmilière. Parfois aussi, c'est le créateur qui vivait sous terre et en sortit un beau jour. Il arrive que le mythe se prolonge en détaillant un accident ou un épisode malheureux qui eut pour funeste conséquence qu'une partie du peuple souterrain n'a pas réussi à parvenir au jour, ce qui peut être associé dans certains récits à l'origine de la mort et des maladies. Conception peut-être à rapprocher de la coutume de déposer les morts dans des grottes largement répandues dans le monde. la caverne étant considérée comme le lieu de l'origine, la mort peut alors être conçue comme un retour vers celle-ci. Une réaction à cette lecture, Jean-Luc Le Callec ?
Alors oui, le mythe, il est répandu dans le monde entier. Alors c'est un mythe anthropogonique, donc qui donne notamment l'origine de l'humanité, mais aussi des animaux. Et les mythes anthropogoniques, c'est ceux qui sont sans doute les plus résistants au changement, qui résistent le plus longtemps dans le temps, qu'on n'emprunte pas aux voisins facilement, dont on change pas comme ça juste sur un coup de tête. Quand un peuple quelque part connaît un récit qui donne sa propre origine et qui la localise, par exemple c'est telle grotte, on vous la montre, moi on m'en a montré en plusieurs endroits, on m'a dit c'est ici, voilà, on me montre une grotte et on vous dit c'est là que les premiers humains sont sortis, d'ailleurs on voit encore leurs traces parce que ça s'est passé au temps où les roches étaient molles, et donc on m'a montré ça en plusieurs endroits du monde. Quand les gens racontent ça en le tenant pour vrai, ils vont pas changer de récit comme ça. Si vous leur dites, ah, moi je suis pas sûr, moi j'ai un autre récit, ils vont pas vous adopter le vôtre. Bon. Et donc c'est un récit qui a des chances d'être ancien et transmis sans changement pendant très longtemps. Alors maintenant, ce qui serait bien de pouvoir prouver, ça colle bien avec l'histoire de retourner dans la grotte pour raviver la création, puisque, disons, l'origine de la vie humaine et animale se situe dans une grotte. Et ça se place dans un type de conception du monde où la création n'est pas unique, comme nous avons l'habitude de le penser. C'est-à-dire, il y a la création, ça se passe une fois, puis c'est fini. Après, si c'est un dieu qui crée l'humanité, par exemple, et les animaux et tout le reste, une fois qu'il a créé tout ça, il se repose, c'est fini, puis il s'en occupe plus. Bon, voilà. Alors ça, c'est une façon de voir qui est pas très répandu, finalement, enfin qui est répandu à cause du christianisme qui lui-même s'est répandu, mais beaucoup de mythologies du monde pensent que, au contraire, exposent au contraire que la mythologie, la création, elle est continue. Ça s'est jamais arrêté, en fait. Ça a commencé à un moment donné, mais ça continue. Et idéalement, la vie, si c'est au départ dans une grotte, continue là comme étant en germe et continue à naître au sein de la grotte. Et ce qu'il faut absolument éviter, c'est que ça s'arrête. Parce que si la création continue de la vie, des animaux et des humains commençait à s'étioler, à devenir de plus en plus rare et à s'arrêter, ce serait vraiment une catastrophe. Donc il faut procéder à des mythes, à des rites qui vont réactiver cette création. Donc c'est pour ça qu'en plein endroit du monde, des gens qui connaissent des grottes en disant « c'est ici que ça s'est passé à l'origine, c'est de là que nous venons et c'est de là d'où sont sortis un jour les premiers animaux », retournent dans les grottes, qu'ils appellent dans la langue du pays très souvent la grotte de l'émergence, et ils retournent pour effectuer des mythes qui ont pour but de réactiver l'émergence pour que la vie continue. Et parmi ces rites, il y a notamment la... Alors, il y a des danses, on allume des feux, on chante, il y a tout un tas de rites qui varient selon les régions, mais un des rites, et là, ça fait quand même dresser une oreille, un des rites effectués à cette occasion-là, c'est de dessiner des animaux sur les parois pour raviver le processus de création. Et donc là, on se dit quand même, il y a quelque chose peut-être de très très proche de ce qui a pu se passer dans les grottes ornées.
Ce qui est intéressant, ce que je trouve de particulièrement intéressant dans votre démarche, Jean-Louis Le Callec, où on revient aussi à vos origines d'autodidacte, c'est que vous, on le voit bien, que vous mêlez, vous utilisez des sciences annexes dans vos travaux pour reconstruire les mythes qui entourent les peintures et les gravures. Vous empruntez des voies assez peu empruntées par les préhistoriens, et notamment deux approches différentes et complémentaires, la hérologie et la phylogénie.
Oui, alors, c'est la réologie.
Désolé.
Moi-même, je fais de l'absurde, hein, c'est pas grave du tout. La hérologie, c'est l'étude de l'atmosphère, etc., enfin, d'une partie de l'atmosphère. La réologie, c'est l'étude des aires de répartition des phénomènes culturels. Et donc, ça, c'est une méthode ancienne qui est utilisée depuis longtemps par les mythologues qui font de la mythologie comparée. En comparant les répartitions différentes de certains mythes, eh bien, on peut arriver à remonter dans le temps sur une idée qu'on peut schématiser en disant... Les cartes, la géographie, les cartes, c'est de l'histoire figée. Hein. Et parce que si on a une carte avec une répartition à un certain moment, la carte, la même carte du même phénomène, quelques temps auparavant, aurait été différente, 1000 ans avant, encore différente, 2000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans. Et en comparant des cartes de phénomènes qui ont évolué simultanément ou les uns après les autres, on peut reconstruire quelque chose de l'ordre d'une chronologie. Et donc ça, c'est une des méthodes qui est utilisée. En utilisant cette méthode, on peut montrer... J'ai pu montrer, mais je suis pas le seul. Là, il y a un Russe qui s'appelle Yuri Breskin, qui est un mythologue comparé justement, qui a aussi montré ça. On l'a fait chacun indépendamment, on peut montrer qu'il y a de fortes chances, disons, c'est une hypothèse très très forte, que le mythe de l'émergence primordiale remonte au paléolithique récent, c'est-à-dire à l'époque à laquelle les cavernes ont été ornées en Europe occidentale, bon, essentiellement. Alors, ça reste à ce stade une hypothèse, c'est-à-dire, ça nous dit simplement, ça n'est pas impossible que ce mythe ait déjà été présent, il n'y a rien qui l'empêche, et au contraire, on peut le penser vraiment, il y a de bonnes chances que ça ait été comme ça. Maintenant, on aimerait aller plus loin et prouver. Alors, on est dans un domaine où on ne peut pas avoir la preuve absolue. Bon. Mais on peut renforcer les présomptions et en utilisant une autre méthode. Alors l'autre méthode, c'est la phylogénétique, justement. C'est une méthode de type statistique utilisée par les phylogénéticiens qui reconstruisent l'arbre de vivant à partir du code génétique des êtres vivants. Et donc évidemment, les mythes sont des sortes d'êtres vivants qui se reproduisent, qui se modifient, qui se reproduisent suivant le principe darwinien de la descendance modifiée, en fait. Et donc, on peut leur appliquer les mêmes méthodes qu'utilisent les phylogénéticiens à condition de les transformer en code. Évidemment qu'il n'y a pas de code génétique des mythes, mais il suffit de prendre chaque élément du mythe et de leur attribuer un code pour fabriquer une ligne de code qui résume en quelque sorte le mythe et qui le rend compréhensible pour des logiciels qui fonctionnent avec des codes. Et donc en transformant les mythes de cette manière, et notamment toutes les versions du mythe de l'émergence, et en faisant rentrer le résultat de cette énorme base de données dans les logiciels utilisés par les phylogénéticiens, le logiciel automatiquement fabrique un arbre, qui est un arbre de consensus, on dit, voilà, c'est le plus probable, un arbre évolutif qui vous donne une origine et un développement. Et l'origine, elle est située automatiquement en Afrique australe.
L'arbre évolutif des mythes. On arrive à la fin de cette émission, Jean-Luc Lecaq. J'ai pas vu du tout leur passé et je voudrais pas vous quitter avant de vous poser cette question puisque vous avez, et parce que ça illustre bien aussi votre passion que vous avez pour l'anthropologie, vous avez lancé avec d'autres personnes l'association Anthropologie pour tous. Quel est l'objectif de cette association? C'est parce qu'on manque de culture générale anthropologique?
Oui, je crois qu'on en manque cruellement. L'idée de fond, c'est de dire, ah tiens, il y a une science qui s'appelle l'anthropologie. Ça veut dire quoi, anthropologie? Ça veut dire étude de l'humanité. Ah donc, il y a donc une science qui étudie l'humanité, mais c'est intéressant, nous sommes tous concernés. Or, on n'en entend jamais parler. On n'entend pas parler à l'école primaire, on n'entend pas parler au lycée, on n'en entend pas parler au collège, on n'entend pas parler à l'université, à moins de se spécialiser et à un certain stade, à un certain niveau d'études, on peut commencer à faire des études d'anthropologie. Or, quand même, s'il y a une science qui étudie l'humanité, qui a des choses à nous dire sur l'humanité, qui a des choses à nous apprendre sur l'humanité, et certains des problèmes qu'elle rencontre, par exemple, parce qu'il ne manque pas, peut-être que ce serait bien de la vulgariser, enfin de la rendre accessible au plus grand nombre et le plus tôt possible. Voilà, peut-être que ça pourrait aider à résoudre certains conflits, par exemple.
Et c'est que l'anthropologie, ça peut permettre d'avoir un regard sur le monde et de dépassionner un grand nombre de débats.
Exactement, c'est bien ce que je pense.
Bien, en tout cas, oui, en effet, c'est un premier pas pour éviter l'ethnocentrisme. Merci beaucoup, voilà. Jean-Luc Lecaq, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. On est très heureux de finir la semaine avec vous. Je rappelle que votre ouvrage, La caverne originelle, aux éditions de La Découverte, est disponible dans toutes les bonnes librairies et que dans quelques semaines, en mars, va paraître une révision de votre livre Des Martiens, au Sahara. Hein. Au Sahara, toujours à propos de pseudo Archéo. Merci beaucoup, Jean-Luc Lecaq.
De rien, merci.
Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Garance Prima Anelo, Céline Lozen, Eve Etienne, Nafi Terras, Natacha Demoule. À la réalisation, Sam Bakiast. À la technique aujourd'hui, Ruben Carmazine. Cette émission se podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.